En fait, ce mythe, il nous est principalement connu grâce à trois textes. Alors, trois textes écrits en norrois. Il s'agit d'un poème édique intitulé « L'Atoluspao » qui date d'environ l'an 1000 après Jésus-Christ. On le trouve aussi dans un texte de Snorri Sturluson qui s'appelle « Les Dents en prose ». Ça, ça nous ramène au début du XIIIe siècle. Et on le retrouve enfin dans un second texte de Snorri Sturluson, qui est l'Heimskringla, bon, une partie de l'Heimskringla, qui s'appelle l'Heimskringla Saga, et qui date aussi du début du XIIIe siècle. Alors, je reviendrai sur chacun de ces textes, et je prendrai le temps de les présenter un par un. En tout cas, ça me semblait intéressant de vous parler de ce mythe, hein, et de ces trois textes dans le cadre de ce séminaire, parce que du coup, on a trois textes, mais trois textes qui nous parlent du mythe de manière très 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 différente, hein. On va voir déjà le déroulement du mythe des palmes, mais surtout la manière de le présenter diffère également. Donc, en conséquence, on a trois regards sur ce mythe et trois manières de dire l'événement. Alors, la mythologie nordique, évidemment, elle rassemble toutes les anciennes croyances des Scandinaves païens. Il faut savoir que la Scandinavie a adopté le christianisme de manière très tardive. C'est une des dernières régions d'Europe à s'être convertie au christianisme. La christianisation nous ramène autour du 9e, 11e siècle environ. Alors ça s'est fait très lentement. Il y a certainement eu une période de cohabitation entre paganisme et christianisme. Et puis petit à petit, le christianisme a pris le dessus. En tout cas, jusqu'à cette période-là, les croyances nordiques réunies dans la mythologie ont perduré. Par contre, les mythes eux-mêmes n'ont pas disparu directement après la christianisation. Ils ont perduré, on a continué à les transmettre oralement de génération en génération, même si, bon, évidemment, ils ont certainement perdu de leur valeur religieuse avec le temps. Mais bon, ils ont survécu en tant que récits folkloriques, on pourrait dire. Et c'est pour ça qu'on les retrouve un petit peu plus tard, donc au XIIIe siècle, dans des textes islandais, soit plus de deux siècles après la conversion de l'île. Alors en tout cas, la mythologie, elle explique différentes choses concernant les croyances nordiques. Donc elle apporte un socle de croyances pour comprendre le fonctionnement de l'univers. La mythologie nous parle par exemple de l'origine de l'univers elle-même, elle nous parle aussi des structures du monde, ou encore des causes, des phénomènes naturels, diverses choses. Et les mythes mettent en scène, évidemment, les dieux nordiques. Alors il faut savoir que les Scandinaves païens, évidemment, ils étaient polythéistes, ils croyaient en plusieurs dieux. Or, il y a une spécificité dans le panthéon nordique, c'est qu'on trouve deux familles de dieux. Il y a deux familles. On a d'abord la famille des As, Aus en islandais ancien, au singulier, Aesir au pluriel. Et à côté de ça, on va avoir la famille des Vanir, au singulier, Vanir au pluriel. Donc on a deux familles. Dans la première famille, la famille des As, on va trouver un nombre relativement important de dieux. C'est ici qu'on va trouver peut-être les dieux les plus emblématiques. Alors dans cette famille, on compte par exemple Odin, donc Odin en islandais ancien, c'est peut-être le dieu le plus important du panthéon nordique. C'est le dieu de la magie, le dieu de la poésie. C'est le père des dieux, enfin il est présenté comme le roi des dieux dans certaines sources. On va aussi trouver Thor, lui c'est vraiment le dieu de la guerre, c'est le dieu pourfendeur de géants, c'est celui qui va fracasser le crâne des géants avec son fameux marteau. Et puis il y a plein d'autres dieux dans cette famille des As, par exemple là je cite Frigg, l'épouse d'Odin, ou encore Tyr qui est le dieu du droit et de la justice, mais il y en a plein d'autres. En tout cas, on peut dire que les dieux de la famille des As, ils sont surtout associés aux fonctions guerrières et magiques. En tout cas, à côté de cette famille des As, on a donc la deuxième famille, qui est la famille des Vanes. Par contre, la famille des Vanes, elle est beaucoup plus restreinte, parce qu'on ne connaît que trois dieux dans cette famille-là. Trois dieux, Njörfur, d'abord, et ses deux enfants, les jumeaux Freyr et Freya. Et cette famille de Dieu, elle est particulièrement associée aux notions de richesse, de fertilité et de fécondité. Manifestement, ce sont ces dieux-là que les Scandinaves païens vénéraient afin d'obtenir paix et richesse. Alors Njofur, plus précisément, lui, c'est plutôt le dieu de la mer et des richesses qu'elle peut apporter aux hommes. Freyr, lui, c'est plutôt dieu de la richesse, voilà, vraiment de la richesse matérielle et de la fertilité. Et puis Freya, c'est une espèce de Vénus du Nord. Elle est plutôt associée à l'amour et à la sexualité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mythologie nordique, ces deux familles, elles évoluent ensemble. Elles évoluent ensemble, elles ont des bons rapports et on les voit souvent côte à côte dans les mythes. Donc on a vraiment l'impression qu'on observe les mythes dans leur ensemble, qu'on a affaire à une grande famille, en tout cas à un grand groupe de personnages qui est le groupe des dieux. Mais malgré ça, il y a ce mythe de la guerre entre les Ases et les Vanes. Avant que les deux familles ne s'unissent et ne forment qu'un groupe, elles auraient été en conflit. Cette guerre apparaît comme une espèce de guerre originelle qui serait survenue au début de l'histoire de l'univers, et c'est dans la mythologie nordique un élément fondateur de l'histoire de l'univers, parce que c'est par cette guerre et par l'accord de paix qui s'ensuit que va naître le panthéon qu'on voit évoluer par la suite dans la mythologie. En tout cas, c'est un sujet très mystérieux, cette guerre entre les As et les Vanes, parce que si on examine et si on compare les trois textes, on va trouver des récits très 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 différents. Disons que le déroulement de l'histoire ne va pas être le même, les causes de la guerre évoquées ne seront pas toujours les mêmes si on en parle, de même le déroulement du conflit va différer d'un texte à un autre, et puis les configurations de l'accord de paix sera aussi différent. En fait, c'est très difficile d'identifier la trame narrative du mythe original, s'il y en a eu, et puis peut-être finalement qu'il a pu exister aussi plusieurs versions de ce mythe. On n'avait pas de dogme unifié dans la Scandinavie médiévale, donc c'est très possible qu'il y ait pu y avoir des petites versions différentes en fonction des régions, mais aussi des périodes. Alors, on va regarder tout ça en détail, mais ce que je voudrais dire ici, c'est que nous, on ne va pas essayer, dans le cadre de séminaires, d'analyser et de restituer le mythe original à partir de ces trois témoignages. Nous, on va plutôt s'intéresser à la manière dont les auteurs ici se sont appropriés le mythe, de quelle manière ils l'ont utilisé dans leur texte en fonction de leur projet littéraire. Donc là, on va vraiment s'intéresser aux aspects littéraires du sujet. Parce que si on regarde, on va voir ça en détail, mais en fait, chaque texte répond à un projet littéraire différent. Et en fonction de ce projet littéraire, eh bien, les auteurs vont reprendre le mythe et l'adapter. Et on va commencer avec le premier texte, l'Arvelusfar. Alors avant de regarder le mythe, je vais juste expliquer deux, trois petites choses sur ce qu'est l'Arvelusfar. Alors l'Arvelusfar, évidemment, c'est un poème édique. Les poèmes édiques, on en compte 35, c'est une collection de poèmes. Il y en a 35, mais dans ces 35 poèmes, on peut trouver deux catégories de poèmes. On a d'abord les poèmes mythologiques, c'est environ la moitié du corpus. Les poèmes mythologiques, qui nous parlent justement de la mythologie. Donc, ils nous expliquent quelle était l'origine de l'univers, l'histoire de l'univers. Ce sont des poèmes qui mettent en scène les dieux également. Et puis, à côté de ça, on va avoir une deuxième catégorie de poèmes édiques, qui sont les poèmes héroïques. Alors ça, ce sont plutôt des poèmes qui mettent en scène les héros légendaires de la tradition nordique, en particulier Sigurdur, le tueur de dragons. Donc voilà, ce sont des histoires de héros qui vivent des aventures et font la preuve de leur prouesse. Alors ces poèmes édiques, ils ont la particularité aussi d'être anonymes. On ne connaît absolument rien au sujet de leurs auteurs. Ils ont été composés sur une période particulièrement longue, entre le 8e et le 13e siècle. Alors c'est toujours assez difficile de dater avec précision ces poèmes-là. En fait, on se base surtout sur des indices linguistiques qu'on peut trouver dans ces textes. Et puis à partir de là, on essaye de déterminer à quelle époque correspond la langue utilisée dans les poèmes. Et évidemment, c'est toujours difficile. En tout cas, voilà, on peut voir que ces poèmes ont été composés sur une période particulièrement longue. Ensuite, ces poèmes, ils ont été principalement composés en Islande et en Norvège, même s'il y en a quelques-uns qui peut-être ont été composés en Écosse et au Groenland, mais voilà, la plupart de ces poèmes sont islandais et norvégiens. Et une chose importante aussi, c'est que la poésie édique, c'est un art avant tout oral. C'est un art oral, ils ont été composés oralement et ils ont été transmis toujours oralement de génération en génération. Et c'est seulement au XIIIe siècle qu'ils ont été retranscrits, après dans les manuscrits. On les connaît surtout grâce à un unique manuscrit, parce que l'essentiel du corpus des 35 poèmes a été retranscrit dans un manuscrit qui s'appelle le Codex Regius, qui date du dernier quart du XIIIe siècle. Et beaucoup de ces poèmes apparaissent uniquement dans le Codex Regius, d'ailleurs. Donc, vous imaginez à quel point ce document a une valeur inestimable. Bon, voilà. En tout cas, on a 35 poèmes édiques et, évidemment, l'Avelus Pao, c'est un de ces poèmes. Alors, l'Avelus Pao, elle-même, elle date d'environ l'an 1000, donc on n'est pas tout à fait certain de la date. Également, bon, ça nous ramène à cette époque-là. Et Velus Pao, ça signifie la prophétie de la voyante ou de la sorcière. Et effectivement, ce poème, il nous rapporte différentes prophéties qu'une sorcière dit à Odin, au dieu Odin. Donc elle parle de plein de choses, cette sorcière. Elle nous parle de l'origine de l'univers, elle nous parle de l'histoire des dieux. Et parmi toutes ces prophéties, elle mentionne la fameuse guerre originelle entre les dieux. Alors ça nous ramène précisément à la strophe 21 à 24. Alors ce passage-là, il est bien individualisé dans l'ensemble du poème, parce qu'avant, à la strophe 21, on nous parle de choses complètement différentes. Dans la strophe 20, on nous parle des Nornes, qui sont des espèces de déesses qui préside au destin des hommes. Et dans la strophe 25, si je me souviens bien, on parle du domaine des dieux. Donc là, vraiment, on passe vraiment du coq à l'âne, d'une strophe à une autre. Donc c'est dans la strophe 21 qu'on parle de cette guerre originelle. Et comme vous allez voir, c'est très difficile de comprendre ce que la vulva, la sorcière, elle nous raconte. C'est très difficile de suivre le déroulement de cette histoire. En fait, on y emploie des termes qui sont parfois obscurs, l'enchaînement des événements est très rapide et très allusif, et puis dans l'ensemble, on a quelque chose de très cryptique, ça j'insiste bien là-dessus, la dimension cryptique de la poésie norroise, c'est quelque chose de fondamental dans ce genre littéraire. Alors on va lire ce passage-là ensemble. Elle se rappelle, c'est la vulva, elle parle d'elle-même à la troisième personne, pourquoi pas. Alors elle se rappelle la première bataille au monde, quand ils percèrent de leur lance Gulveig et dans la halle de Haor c'est Odin, donc la halle d'Odin, la brûlèrent, trois fois René, avec insistance, pourtant elle vit encore. La brillante Heidi, on l'appelait, quelques maisons qu'elle visita, la sorcière, l'habile voyante, sachant manier la baguette, ou qu'elle le pouvait pratiquer la magie. Ensorceler les esprits séduits, toujours faisait la joie des méchantes femmes. Alors tous les dieux montèrent sous le siège du jugement, divinité suprême, et se consultèrent, savoir si les ases paieraient le tribut, ou si tous les dieux recevraient offrande. Odin fit voler la lance et tira parmi le peuple, ce fut la première bataille au monde, rompu fut le rempart du royaume des ases, le champ resta aux vannes vainqueurs. Alors, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce passage, il est un petit peu difficile à saisir. Toutes les étapes du conflit sont pas clairement exposées. Et des choses dont la vulva, enfin la sorcière, nous parle, sont mentionnées de manière très très allusive. Alors, on va tout reprendre et on va essayer d'expliquer ce qui peut au moins être explicable. Ici, à strophe 21, on mentionne la première bataille au monde. Alors, cette première bataille au monde, il s'agit très certainement de la guerre entre les As et les Vannes. Pourquoi ? Parce qu'à la toute fin de la strophe 24, on mentionne le royaume des As et on nous dit que les Vannes sont vainqueurs. Donc là, il n'y a pas trop d'ambiguïté sur ce point-là. Par contre, on ne sait pratiquement rien sur l'origine de son conflit. Le poème ne nous explique pas du tout à quoi est due cette guerre. Le seul indice qu'on a, c'est qu'on mentionne un personnage féminin qui s'appelle Gulveig, et que manifestement on cite encore à la strophe 22, et qu'on appelle la brillante, Heidi. Alors ça, c'est très, très, très mystérieux. On ne sait pas du tout qui c'est, hein, ce personnage-là. On la mentionne dans aucun autre texte. Tout ce qu'on dit, c'est qu'apparemment, elle subit des supplices de la part des As. Hein. Elle est brûlée 3 fois, puis elle ressuscite à chaque fois. Et à la strophe 22, on nous dit qu'elle sème la discorde parmi les As. Hein. Elle ensorcelait les esprits séduits, et toujours, elle faisait la joie des méchantes femmes. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et on ne sait pas forcément s'il y a un lien véritable avec la guerre entre les As et les Vards. Alors, on ne sait pas qui c'est, mais on a quand même, les spécialistes ont quand même formulé plusieurs hypothèses pour essayer de comprendre de qui il s'agissait. Déjà, Gulveig, en soi, ça signifie ivresse de l'or ou force de l'or. Le terme Heidur fait certainement référence à la notion de l'or également, parce que voilà, c'est un métal qui brille. Donc du coup, on a supposé le fait que Gulveig pouvait être une espèce d'incarnation de la richesse, du moins l'incarnation du côté pervers de l'or. C'est l'or qui sème la discorde, ici. Bon, voilà. La guerre serait peut-être causée, du coup, par l'argent. Et peut-être que Gulveig, en tant que personnification de l'or pervertissant, aurait été envoyé par les vannes eux-mêmes, en sachant que les vannes, ce sont les dieux associés à la richesse. Donc là, on peut recouper un certain nombre de notions. Bon, voilà, ça c'est une hypothèse. Il y a une autre hypothèse aussi qui dit que peut-être que Gulveig aurait semé la discorde au sein de la famille des As à cause de son comportement sexuel condamnable. On nous dit qu'elle ensorcelait des esprits séduits. Bon, on n'a pas beaucoup de détails, mais c'est une des hypothèses qui a été proposée. En tout cas, si on reprend ces différentes hypothèses, d'autres personnes ont aussi émis l'idée que cette femme, cette Gulveig, pourrait tout simplement être Freya. Pourquoi pas, hein ? Là, on a la notion de richesse dans la première hypothèse, on a la notion de sexualité dans la deuxième. Or, Freya, c'est une divinité qui est clairement associée à la richesse et à la sexualité. En plus, quand on regarde les autres sources nordiques, on sait très bien que Freya, c'était une magicienne. Elle aussi a pratiqué la magie comme Gulveig. Alors voilà, c'est assez pertinent de considérer que Freya pourrait être cette Gulveig, mais évidemment, on n'a aucune preuve. Donc voilà, les choses ici sont tout à fait mystérieuses au sujet de l'origine de ce conflit selon la Völuspá. Si on prend la suite du poème, la suite des événements ne sont pas tellement plus claires, en fait. La suite des événements, c'est le grand affrontement qui a lieu entre les As et les Vannes. Or, ce grand affrontement, il n'est pas raconté dans la strophe 23, mais dans la strophe 24. En fait, on saute une strophe, on passe directement de la strophe 22 à la strophe 24. Allez chercher la logique ici, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on nous dit à la strophe 24 qu'Odin qui volait sa lance donc par-dessus l'armée des Vannes. On nous dit que le rempart du royaume des As a été rompu et que manifestement les Vannes s'en sont sortis vainqueurs. Ensuite, c'est à la strophe 23 qu'on a la suite des événements. On nous parle des négociations de paix. Là, on nous dit qu'il y a une réunion des dieux et puis ils discutent pour savoir ce qu'ils peuvent faire. Là, deux solutions qui sortent à eux. Soit les As payent tribut, soit tous les dieux reçoivent offrande. Et puis voilà, on ne nous en dit pas plus, on ne sait pas quel est le dénouement de cette histoire. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'aspects qui restent vraiment mystérieux dans ce texte-là, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, on ne sait pas exactement quelle est l'origine du conflit. Le déroulement est relativement clair ici, mais bon, voilà, par contre les négociations de paix sont pas détaillées. Ici, et puis on ne connaît pas du tout le dénouement. Mais ce qu'il faut surtout retenir pour ce poème-là, c'est la dimension allusive et cryptique du poème. Selon moi, cette manière de présenter le mythe, c'est un exemple tout à fait éclairant des caractéristiques générales de la poésie norroise. Une des caractéristiques principales de la poésie norroise, c'est justement son caractère cryptique et allusif. Ça, c'est une esthétique propre à la poésie norroise. Hein. La qualité esthétique d'un poème norrois se mesure justement à sa capacité à peut-être intriguer, mais du moins à faire réfléchir à l'auditeur ou le lecteur. Ici, on a du coup un appel à décoder le poème. Pour pouvoir le comprendre, il faut pouvoir identifier toutes les différentes allusions qui sont faites ici. Disons qu'on a l'impression qu'on fait juste des petites suggestions, des petites allusions sur ce mythe en question. Alors pour nous, c'est particulièrement difficile, évidemment, mais pour un Scandinave païen qui a vécu autour de l'an 1000, donc au moment de la rédaction, enfin de la composition de ce poème, les choses étaient certainement beaucoup plus simples. Hein. En l'an 1000, évidemment, les Scandinaves avaient une connaissance approfondie des mythes. Ils connaissaient parfaitement ces mythes, donc eux, ils étaient tout à fait capables de décoder ces poèmes-là et de décoder les différentes allusions qui sont faites ici. Nous, évidemment, ce n'est pas le cas, parce qu'on n'a pas toutes les clés pour comprendre toutes les allusions qui ont été faites ici. Donc voilà, ça, c'est un exemple de l'adaptation d'un mythe à une démarche littéraire précise qui est celle du caractère allusif et cryptique de la poésie norroise. Je vais juste vous donner un exemple pour illustrer le caractère cryptique de la poésie norroise, et cette fois-ci, ce ne sera pas dans la poésie idique, mais dans la poésie skaldique. Alors, la poésie skaldique, ça nous ramène à peu près à la même époque que la poésie idique. Elle a été composée entre le 8e et le 14e siècle, elle est contemporaine de la poésie idique. Elle a été composée par des skalds, les skalds en islandais ancien. On les connaît relativement bien, ces skalds, on connaît leur identité et un petit peu leur vie. C'était un genre poétique qui était surtout représentatif de la Scandinavie occidentale. On les a surtout composés en Norvège et surtout en Islande. Les skalds étaient surtout des Islandais. Et elles diffèrent de la poésie édique sur le fond et sur la forme. Déjà sur le fond, il faut savoir que la poésie skaldique, c'était une poésie de cour. En fait, les skalds composaient ces poèmes en l'honneur de chefs, de ducs et de rois auxquels ils étaient au service. Donc c'est vraiment une poésie de cour. Et on peut dire aussi qu'on a un registre tout à fait panégyrique ici. Ces poèmes skaldiques servaient avant tout à faire l'éloge des chefs, des ducs et des rois en question. Donc là, on mettait surtout en avant des thèmes guerriers, on parlait des prouesses guerrières des aristocrates en question, on parlait de leur talent politique, on disait, on mettait en avant leur qualité, on mettait aussi en avant leur générosité. Bon voilà, il s'agissait vraiment de faire l'éloge des chefs, des rois et des ducs. Donc là, c'est vraiment très très différent sur le fond de la poésie idique. Sur la forme, c'est encore autre chose, parce que la poésie skaldique, elle répond à des règles de composition qui sont extrêmement complexes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, parce que ça prendrait des heures. Et c'est atrocement compliqué de composer une strophe skaldique. Alors, c'est la composition de la poésie skaldique, elle repose sur un certain nombre de règles qui sont très compliquées. Alors, il faut respecter un nombre de vers très précis. Il y a aussi un nombre de syllabes à respecter. Il y a tout un jeu sur l'accentuation, les allitérations, des rimes internes, etc., etc. C'est atrocement compliqué. Et la poésie skaldique, c'est certainement un des genres poétiques les plus sophistiqués qu'on ait connu dans toute l'histoire de la littérature européenne. Composer une strophe skaldique, en soi, c'est une prouesse, mais très très difficile. Et justement, il y a deux règles de composition dans la poésie skaldique sur lesquelles je vais insister et qui montrent bien le caractère cryptique de la poésie norroise. Donc pour ça, on va regarder un petit extrait de poème. Il s'agit des quatre premiers vers de la Glimmdrápa de Thorbjörn en Klofi. Donc ça nous ramène autour de l'an 890. Et dans ce poème-là, Thorbjörn, il fait l'éloge d'un roi norvégien qui s'appelle Harald à la belle chevelure et qui a été roi de Norvège entre 872 et 931. Alors voici les quatre premières les quatre premiers vers de ce poème. Ça vous donne Hilmir Riet à Heidi qui a de Sir Tremigdalra Oterri Aisiemaela et Vieille Boita Heia. Alors ici, quand on regarde ce poème, enfin, ces quatre vers, il y a effectivement deux règles de cryptage qui apparaissent ici. D'abord, on remarque que l'énoncé, la phrase elle-même, est complètement déstructurée. Alors c'est un petit peu virtuel si vous ne parlez pas islandais, mais en fait, on voit ici, dans le morceau de strophe, que les règles de la syntaxe n'ont pas du tout été respectées. En fait, c'est comme si les mots étaient dans le désordre. Donc là, en dessous, je vous ai mis la phrase, mais reconstruite en respectant les règles de base de la syntaxe de l'islandais ancien. Et si vous regardez, on voit effectivement que les mots ne sont pas dans le même ordre. Là, par exemple, dans une phrase syntaxiquement correcte, on a le verbe « heia » à la 13e place, alors que dans le poème, il apparaît en dernière position. Et c'est la même chose avec le reste. Là, on a vraiment une phrase qui est complètement déconstruite. Donc ça signifie que la personne qui écoute le poème, qui le lit, s'il est rédigé, cette personne-là doit être capable de reconstruire la phrase pour pouvoir la comprendre. Voilà, ça c'est le premier aspect de la dimension cryptique de cette poésie. Il y a un deuxième aspect, c'est le vocabulaire. En fait, il y a une petite convention en poésie skaldique qui est qu'on ne désigne jamais une chose ou une personne par son vrai nom. À la place, on va utiliser des figures de style. Ils sont soit des synonymes ou des métonymies, on appelle ça des heiti, soit des métaphores, voire des périphrases, on appelle ça des kenningar. D'abord, ici, vous avez la traduction, mais la traduction littérale de la phrase reconstruite. Mot à mot, ça nous donne quelque chose comme ça. Le couvre-chef ordonna de lancer dans les hauteurs le fracas des planches de combat, toujours plein de fureur, contre les arbres avides de sortilèges du sentier des étendards. Alors, à première vue, oui, mais à première vue, ça n'a aucun sens. Mais en fait, si, tout ça, ça a une signification. En fait, il y a trois expressions ici, il y a trois mots, mais au lieu d'utiliser les mots en question, on va utiliser ces figures de style. D'abord, on a un heiti ici. Couvre-chef, en fait, ça fait référence au seigneur. Au lieu de désigner le seigneur lui-même, on va faire référence à lui par rapport à son casque, finalement. Ensuite, on a deux kenninga. Le fracas des planches de combat, ça fait référence à l'assaut. En fait, les planches de combat, ce sont des épées. Donc le fracas des épées, c'est la bataille elle-même. Donc moi, j'ai traduit ça par assaut. Ensuite, les arbres avides des sortilèges du sentier des étendards. Alors, le sentier des étendards, c'est le champ de bataille, c'est là où on va réunir tous les étendards. Les sortilèges du champ de bataille, c'est la guerre elle-même, la bataille. Et donc les arbres avides de guerre, ce sont les guerriers. Donc voilà, tout ça, on va le traduire par les guerriers. Là, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est tout à fait normal en poésie skaldique de procéder de cette manière-là. Donc, ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est le caractère cryptique de la poésie norroise. Et c'est pour ça, donc, que le mythe de la guerre entre les As et les Vannes paraît particulièrement difficile à comprendre dans ce poème, tout simplement parce que ça fait partie des codes esthétiques de ce genre poétique. Par contre, si on regarde les autres textes, là, on arrive dans des univers complètement différents. C'est plus du tout la même manière de présenter le mythe, tout simplement parce qu'on n'a pas du tout les mêmes projets littéraires, les mêmes démarches littéraires derrière ces histoires. Alors, le deuxième texte, c'est l'Edda en prose de Snorri Sturluson. L'auteur, d'abord. Snorri Sturluson, alors lui, on le connaît très très bien. Il a vécu de 1179 à 1241, il était islandais, c'est le personnage emblématique de l'Islande médiévale. En fait, c'était un grand homme politique, c'était un des chefs les plus puissants de l'île à cette époque-là. C'était aussi un important diplomate, il avait des rapports très soutenus avec le roi de Norvège, il faisait des voyages diplomatiques en Norvège et en Suède. Et surtout, c'est un immense poète, un immense auteur et un très très grand historien. Et il a écrit quelques-uns des textes les plus importants de la littérature scandinave médiévale, et peut-être même, à mon sens, quelques-uns des textes les plus importants de l'ensemble de la littérature scandinave, mais en général. Bon, je ne pense pas qu'on me contredira. Mais en tout cas, parmi ces textes, on trouve justement l'Edda en prose. Alors l'Edda en prose, elle a été écrite dans les années 1220. On a ici un projet littéraire qui est tout à fait original. En fait, l'Edda poétique, c'est avant tout un espèce de manuel de poésie skaldique à l'usage des contemporains de Snorri. En fait, il faut savoir que en ce début de XIIIe siècle, Snorri a déploré le fait que ses concitoyens, ses compatriotes islandais, oubliaient petit à petit toute la culture traditionnelle norroise, en particulier la poésie skaldique. Et c'est vrai que deux siècles après la conversion au christianisme, toute cette culture elle commence un peu à disparaître lentement. Snorri déplore ça. C'est pour ça qu'il va composer ce manuel de poésie skaldique pour garder en mémoire toutes les règles de composition de la poésie skaldique et pour essayer d'assurer la survie de ce genre poétique. Or, il faut savoir une chose, c'est que pour composer un bon poème skaldique, il faut utiliser des heiti et des kenningar, comme je vous ai dit tout à l'heure. Or, beaucoup de heiti et de kenningar font justement référence à la mythologie nordique. Donc ça signifie que pour pouvoir faire des heiti et des kenningar, il faut une base culturelle mythologique, en fait. Donc c'est pour ça que cet Edda en prose, ce manuel de poésie skaldique, c'est aussi l'occasion de faire un petit exposé de mythologie. En fait, il y a un gros chapitre dans l'Edda en prose qui présente précisément les règles de composition de la poésie skaldique. Mais la plus grosse partie du livre, en fait, c'est la présentation de la mythologie nordique. Et justement, dans l'Edda en prose, il nous parle de la guerre entre les As et les Vanes. En fait, plus précisément, à un moment, Snorri explique quelle est l'origine de la poésie selon la mythologie nordique. C'est à cette occasion-là qu'il va mentionner la guerre entre les As et les Vanes. Donc l'origine de la poésie selon l'Edda de Snorri. L'origine en est que les dieux se trouvaient en conflit avec le peuple des Vanes, mais ils convinrent d'une conférence de paix et conclurent une trêve de la façon suivante. Les uns et les autres allèrent à une même cuve et y crachèrent leur salive. Quand ils se séparèrent, les dieux prirent la cuve et ne voulurent pas laisser se perdre ce gage de paix. Ils en formèrent l'être appelé Kfasia. Il était si sage que nul ne pouvait lui poser de questions auxquelles il n'eut réponse. Il fit de longs voyages à travers le monde afin d'enseigner aux hommes la science. Mais quand un beau jour il arriva chez des nains appelés Fialar et Galar qu'il avait invités, ceux-ci le prirent et le tuèrent. Ils firent couler son sang dans deux cuves et un chaudron, ce dernier porte le nom d'Odrailir. Et les cuves, les noms de Somme et Bonne, y mêlèrent au sang du miel, et il se forme un hydromel tel que quiconque en boit devient skald, poète et savant. Les nains dirent aux As que Kfasir s'était étouffé dans son intelligence, parce qu'il n'y avait personne qui fût assez instruit pour épuiser son savoir. Pourquoi pas, Alors là, vous voyez que le mythe, il n'est plus du tout présenté de la même manière que dans la Völuspá. Déjà, on peut remarquer que les choses elles sont beaucoup, beaucoup plus intelligibles ici. On a une idée un petit peu plus précise du déroulement du mythe. C'est tout à fait logique. En fait, Snorri, ici, comme je vous le disais, il nous fait un manuel de poésie et indirectement de mythologie. C'est donc un ouvrage didactique. Donc il faut que les choses soient claires pour le lecteur. C'est donc une approche qui nécessite le fait que le récit soit très très clair. C'est pour ça qu'on a quelque chose de très différent du caractère cryptique de la Völuspá. Cependant, on constate qu'il y a des grandes différences entre les informations données par Snorri et celles dans la Völuspá. Déjà pour les origines, dans la Völuspá, on avait dit qu'on mentionnait une magicienne, mais qu'on ne savait pas trop de qui il s'agissait. Ici, dans l'Edda de Snorri, on nous dit absolument rien sur l'origine du conflit. Ensuite, pour ce qui est des affrontements, la Völuspá sous-entendait que les Vanes gagnaient la guerre. Dans l'Edda en prose, on n'a pas non plus d'informations précises sur le déroulement du conflit. On peut tout de même supposer qu'il y a un espèce de statu quo entre les dieux, parce qu'ils se retrouvent à une conférence, donc voilà. Il y a une idée d'égalité peut-être entre eux, même si ce n'est pas sûr à 100%. Par contre, on nous parle d'une chose assez étonnante après, au sujet de l'accord de paix. Il y a une petite anecdote vraiment surprenante ici. On nous dit que les dieux convinrent d'une conférence de paix et conclurent une trêve de la façon suivante. Les uns et les autres allèrent à une même cuve et y crachèrent leur salive. Quand ils se séparèrent, les dieux prirent la cuve et ne voulurent pas laisser se perdre ce gage de paix. Ils en formèrent l'être appelé Kfassir. Alors c'est un petit peu surprenant ce qu'on nous raconte ici, mais en fait ça a beaucoup de sens malgré tout. En fait, ce qu'il faut comprendre ici avec les crachats, c'est que les dieux sont en train de fabriquer de l'alcool. En fait, le fait de cracher, c'est une technique de fermentation qui est bien attestée dans de très très nombreuses sociétés. Et c'est manifestement ce qu'ils sont en train de faire, les dieux. Ils crachent pour fabriquer de l'alcool. Et né de cette manière, Kfassir qui est, on va dire, la personnification de l'alcool. Ce géant de l'alcool s'appelle Kfassir. Or, le mot Kfass, dans les langues slaves et les langues baltes, il existe toujours. Et dans les langues slaves et baltes, il désigne justement un type d'alcool. Bon, en tout cas, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les dieux sont en train de fabriquer de l'alcool et que pour célébrer cet accord de paix, ils vont trinquer un coup. Tout simplement. Mais oui, c'est classique. Et bien justement, le fait de boire de l'alcool pour célébrer la paix, ça c'est du pratique, un rituel de paix qui est attesté dans beaucoup, beaucoup de sociétés, et en particulier en Scandinavie. Par exemple, on a beaucoup d'indices dans les sources qui indiquent que les Scandinaves réalisaient des libations rituelles, comme on appelle ça, dans lesquelles on consommait de l'alcool, et ce afin d'obtenir paix et richesse. Ça existait manifestement pendant la période païenne, mais ça a perduré pendant la période chrétienne. On voit qu'il y a aussi des différences entre ce mythe-là et le récit de la Völuspá. Alors ça soulève évidemment des questions. On peut déjà se demander si on n'a pas tout simplement affaire à des traditions différentes. Est-ce que Snorri et le poète de la Völuspá n'ont pas retranscrit deux versions différentes du mythe? Peut-être qu'il a pu exister différentes versions. Ça, on n'en sait rien. C'est possible. Il ne faut pas non plus oublier que Snorri, lui, il écrit au début du XIIIe siècle, soit plus de deux siècles après la christianisation. Est-ce que Snorri est capable ici de nous reconstituer un mythe original qui a eu cours pendant la période païenne, soit plus de deux siècles auparavant? Ça, on ne peut pas non plus le savoir, mais c'est une question qu'il faut avoir en tête. Donc peut-être qu'ici, Snorri a tout simplement essayé de reconstruire le mythe original, ce afin de créer un récit compréhensible. On ne peut pas savoir, évidemment, on n'a pas assez d'informations, mais c'est tout à fait envisageable. Par contre, on a quand même de bons indices pour penser que Snorri nous livre ici un témoignage vraiment très pertinent et peut-être un mythe authentique. Alors ici, je vais citer le travail de Georges Dumézil, qui a fait des remarques vraiment passionnantes au sujet de ce mythe. Lui, il pense que Snorri, il nous retranscrit ici un mythe originel indo-européen. Pour rappel, les indo-européens, c'était un peuple hypothétique qui parlait une langue et qui avait une culture qui peut-être était à l'origine de toutes les langues et sociétés indo-européennes de l'Islande jusqu'à l'Inde. On ne sait pas exactement quand ils ont vécu, ces Indo-Européens, mais c'était il y a des milliers et des milliers d'années. Et Georges Dumézil pense également que toutes les mythologies indo-européennes ont une même origine. Une mythologie qui a été formulée par ces Indo-Européens, justement. Et effectivement, Georges Dumézil a remarqué qu'il y avait beaucoup, beaucoup de points communs entre la mythologie nordique, la mythologie celtique, slave et même les mythes indiens. Et justement, au sujet de ce mythe de la guerre, Georges Dumézil a trouvé des ressemblances vraiment frappantes dans un texte sanskrit qui s'appelle le Mahabharata. Alors le Mahabharata, c'est une épopée sanskrite qui est très 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 ancienne, parce qu'elle a été composée et remaniée entre le 4e siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle après Jésus-Christ. Et dans le Mahabharata, on nous raconte à peu près la même histoire que dans les Eddas en prose. Alors ici, c'est juste un petit résumé, et vous allez voir que c'est vraiment la même histoire. Dans le Mahabharata, on nous dit qu'à l'origine, il y avait deux groupes de dieux, et que ces dieux, enfin ces deux groupes, étaient aussi en opposition, en conflit. On avait d'un côté le premier groupe qui se composait d'Indra, qui est un dieu guerrier, et le deuxième groupe, et dans ce groupe, on trouvait aussi le couple Mitra-Varuna, qui est plutôt associé à la magie. En fait, Indra-Mitra-Varuna, c'est à peu près la même chose que les As. Et le deuxième groupe, eh bien, ce sont les Nasatiya, et eux, ce sont plutôt des divinités attachées à la richesse et la fertilité. La même chose que les Varnas, finalement. Alors, ce qui se passe, c'est que les dieux du premier groupe refusaient aux dieux du second groupe de les considérer comme de véritables divinités et de les inclure dans la communauté divine, d'où le conflit qui survient entre eux. Mais là, on a un ascète qui arrive et qui crée un géant qui s'appelle Mahada. Mahada, en sanskrit, ça veut dire ivresse. Donc là, on retrouve encore cette notion d'alcool. Mahada et Kvasir, ce sont les mêmes personnages, en fait. Ce qui se passe ensuite, c'est que Mahada menace de détruire le monde. Donc, du coup, les dieux, ils ont peur et ils se disent, bon, faudrait peut-être qu'on fasse la paix, finalement. Et effectivement, ils font la paix. Alors là, on voit quand même une petite différence entre Kvasir et Mahada, c'est que Kvasir, à la base, c'était le résultat de l'accord de paix entre les dieux, alors que Mahada, c'est plutôt l'origine, l'origine de cet accord. En tout cas, comme Kvasir, Mahada est morcelé, après il est morcelé en quatre parties, et selon le Mahabharata, ces quatre morceaux sont à l'origine des quatre types d'ivresse qui existent. Donc, l'ivresse causée par la boisson, celle par les femmes, le jeu, ou encore la chasse. Donc là, c'est tout à fait passionnant ce que nous dit Georges Dumézil ici. Il nous dit qu'il y a manifestement un mythe originel qui a été formulé par les Indo-Européens, que ce mythe a après évolué parallèlement en Scandinavie et dans l'Inde, mais qu'il a relativement peu évolué. En tout cas, ça laisserait entendre que Snorri nous rapporte un mythe relativement authentique. Bon, en tout cas, pour terminer avec l'Edda de Snorri, il faut ajouter que... je vous rappelle, du coup, que l'Edda Snorri, c'est un ouvrage didactique, donc il a pour but d'expliquer la mythologie à ses lecteurs. C'est pourquoi il a une démarche explicative et que le contenu du texte est particulièrement clair et compréhensible. Mais évidemment, on peut toujours se poser des questions quant à la fiabilité du récit. Il écrit au début du XIIIe siècle. Est-ce qu'il avait des informations pertinentes qui pouvait correspondre à un mythe qui a eu cours à l'époque païenne? Ça, on ne peut pas en être sûr à 100%. Alors maintenant, on va regarder le dernier texte et qui nous offre encore une autre manière de présenter ce mythe. Il s'agit de la Heimskringla de Snorri Sturluson. Alors voilà, ça c'est un point étonnant, c'est qu'on a encore le même auteur, c'est encore Snorri Sturluson qui a écrit ce texte. Cependant, Snorri, ici, dans la Heimskringla, il n'a plus du tout la même démarche littéraire. Il n'a plus du tout la même démarche, du coup, il n'a plus la même manière de présenter le mythe. Alors, la Heimskringla, déjà, il faut savoir que ce texte, il a été composé dans les années 1220. C'est un ouvrage historiographique. En fait, c'est une histoire des rois de Norvège depuis les origines mythiques, puis du 9e au 12e siècle. La Heimskringla se compose de 16 sagas, et la première de ces sagas, c'est l'Unglinga saga. Alors cette saga, elle a une position assez originale dans l'ensemble du corpus, parce que les 15 autres sagas, elles nous parlent de faits historiques. L'Unglinga saga, elle, c'est pas le cas. En fait, dans ce texte-là, Snorri nous parle des rois mythiques, des rois légendaires, qui s'étaient à l'origine, selon lui, de la dynastie qui a occupé le trône de Norvège à l'époque médiévale. Et ce qui est important de noter ici, c'est que Snorri, lui, il a une lecture qu'on dit éphémériste de la mythologie. L'éphémérisme, c'est un courant historiographique qui était très répandu dans l'Europe médiévale. L'éphémérisme, c'est un courant historiographique selon lequel les dieux païens, donc les dieux nordiques ou encore les dieux celtiques ou les dieux gréco-romains, c'était à la base des personnages historiques. Ce sont des personnages, selon les historiens et les éphéméristes, qui ont réellement existé. Ils ont existé, mais ensuite, par erreur et par ignorance, les gens leur auraient rendu un culte. Ils les auraient divinisés par la suite. C'est justement le point de vue que Snorri il a ici. Il considère que les dieux nordiques ont réellement existé et que les Scandinaves les ont ensuite érigés au rang de dieux. Et il explique de cette manière-là l'origine du paganisme antique. Il explique aussi pourquoi ses ancêtres se sont détournés du seul vrai Dieu, qui est le Dieu des chrétiens, évidemment. Alors c'est pour ça que Snorri nous donne beaucoup de détails, mais des détails historiques, du coup, ici. Il pense, par exemple, que les As, les dieux As, en fait, c'était des rois qui régnaient en Asie. Déjà, il joue sur la ressemblance phonétique entre As et Asie, ici. Et les Vannes, selon lui, c'était des rois, mais qui régnaient dans le nord de la mer Noire. Donc, selon lui, Odin, c'était un roi As, c'était un roi conquérant qui envahissait beaucoup de royaumes et qui convoitait justement le royaume des Vannes. Donc, du coup, les As et les Vannes vont entrer en guerre, et selon Snorri, dans cette intrigue-là, cette guerre, évidemment, elle est historique. Donc, elle s'est réellement produite. Alors, voici ce qu'il nous dit précisément dans ce même script-là. Odin marcha à la tête d'une armée contre les Vannes, mais ceux-ci résistèrent vaillamment et défendirent leur pays. À tour de rôle, les deux camps remportèrent la victoire et dévastèrent le pays ennemi en y faisant de grands dommages. Quand les uns et les autres s'enlacèrent, ils décidèrent de tenir une conférence afin de régler leurs différends. Ils firent la paix et échangèrent des otages. Les Vannes remirent les plus éminents d'entre eux, Njörtur le riche et son fils Freyr, et les As cédèrent en échange celui qui est appelé Hainir, en déclarant qu'il possédait toutes les qualités requises pour un chef. C'était un homme grand et beau. Avec lui, les As envoyèrent celui qui est appelé Mimir et qui est très intelligent. En échange, les Vannes leur remirent le plus avisé d'entre eux, dont le nom est Kvasir. Alors, indéniablement, des trois textes qu'on aura vus aujourd'hui, c'est celui qui est le plus détaillé. Là, on a énormément d'informations. On sait parfaitement quelle est l'origine du conflit ici. On a Odin qui est un roi belligérant, c'est lui qui envahit le royaume des Vannes, donc ça c'est très clair. On connaît aussi le déroulement. On sait qu'il y a un statu quo entre les As et les Vannes. Personne n'arrive à prendre le dessus sur l'autre. Et on a aussi une description très précise des négociations de paix. Et on nous précise en plus qu'il y a un échange d'otages. Alors ici, par otage, il ne faut pas entendre l'otage comme on le définit aujourd'hui. Les otages dans les sociétés anciennes, ce sont en fait des espèces de garanties. C'était tout à fait courant d'échanger des otages à l'occasion des accords de paix. Et c'était le moyen d'exercer une espèce de pression sur le camp adverse. Si le camp adverse ne respectait pas l'accord de paix, on pouvait le menacer de représailles sur les otages qu'on lui avait remis. Alors ça arrivait très peu, évidemment, mais c'était une pratique diplomatique qui était tout à fait courante à l'époque médiévale et même avant. Et ça, on la retrouve dans la Scandinavie pendant tout le Moyen-Âge. En tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est que Snorri, manifestement, il a complètement réécrit le mythe. Il l'a complètement réécrit pour l'adapter au genre historiographique. Alors déjà, il a une approche évémériste, comme je vous l'ai dit. Les dieux et tous les autres personnages, ce sont des personnages historiques. En plus, ils ont une carrière politique tout à fait classique. Ils ont même une carrière politique comme les autres rois historiques dont Snorri parle dans la suite de Heimskringla. C'est pour ça qu'on les voit avoir une carrière militaire, faire la guerre, et aussi se lancer dans des négociations de paix tout à fait précises, et appliquer des pratiques diplomatiques tout à fait conventionnelles pour cette époque-là. Donc là, Snorri a vraiment réécrit entièrement le mythe pour l'adapter au genre historiographique. Je vais juste vous montrer un passage très court, mais très proche de ce qu'on vient de voir. C'est un extrait de la suite de la Heimskringla, plus précisément dans la saga de Saint Olaf, l'Olaf Saga Helga, dans lequel on nous parle de l'invasion de la Norvège en 1028 par Knut le Grand, roi du Danemark et d'Angleterre. Alors ici on nous dit Knut le Grand rassembla son armée et se dirigea sur le Limnafjord, ça c'est au nord du Danemark, et quand il fut prêt, il cingla de là avec toutes ses troupes jusqu'en Norvège. Il marcha précipitamment et ne mouilla pas à l'est du fjord, puis traversa le fold et aborda dans les Agdir, où il convoqua des assemblées. Les Baldur, donc des fermiers, des hommes libres, descendirent et tinrent des assemblées avec le roi Knut. Là, Knut fut pris pour roi par tout le pays. Il institua des hommes sur le district, les districts, et prit des otages parmi les Baldur. Nul ne parla contre lui. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de points communs entre ce témoignage et le passage de Vikinga Saga. En fait, dans ces deux passages, on trouve quelques-unes des grandes caractéristiques de l'historiographie islandaise. Alors, je vous en donne trois. Déjà, ce qu'on peut retenir, c'est l'objectivité des auteurs des histoires en Islande, les auteurs des sagas royales, globalement, ils prenaient assez peu parti pour les différents personnages. Et là, on voit, par exemple ici, Snorri n'a pas du tout une image péjorative, nous donne pas une image péjorative de Knut, malgré le fait qu'il est en train de faire une invasion de la Norvège. De plus, on trouve une description tout à fait détaillée des processus politiques. Ça, c'est vraiment caractéristique de l'historiographie islandaise. On présente en détail tous les mécanismes politiques qui sont en place quand il y a un conflit. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'informations détaillées sur le cadre géographique, sur les affrontements, aussi sur les négociations de paix. Et ça, c'est tout à fait représentatif de l'historiographie islandaise. Et enfin, on a une éthique du pouvoir qui apparaît ici, qui découle de la description détaillée des processus politiques. En fait, dans la Scandinavie médiévale, la valeur du roi, elle est déterminée par sa capacité à remporter des succès. Un roi a de la valeur tant qu'il remporte des succès. C'est pour ça que dans l'historiographie islandaise, on va donner beaucoup de détails sur leur carrière, sur les différents processus politiques qui sont en jeu ici. En conclusion, on constate donc qu'on a trois textes qui répondent à trois projets littéraires différents. Et donc, on a trois modes de représentation du mythe de la guerre entre les Ases et les Vannes. D'abord, dans la Völuspá, on a une approche purement poétique du mythe. C'est pour ça qu'il apparaît de manière cryptique et allusif. Dans les Edda Snorri, on a une approche au contraire didactique. C'est pour ça que le mythe est relativement clair, on le comprend bien, comparé à la Völuspá. Par contre, on peut toujours se demander si le récit est fiable, s'il n'y a pas eu une reconstitution. Et enfin, dans la Heimskringla, Snorri, lui, là, il a une approche historiographique. Il adapte le mythe aux pratiques historiographiques en cours en Islande. C'est pour ça qu'on a beaucoup, beaucoup de détails sur les mécanismes politiques. Donc voilà, cet exemple-là, il illustre bien toute la difficulté que représente l'étude de la mythologie, parce que ces trois textes, ce sont nos sources principales pour connaître la mythologie nordique. Or, les chercheurs qui se penchent sur la mythologie, ils sont constamment confrontés à ces problèmes de représentation et d'appropriation par les auteurs des différents mythes. Ils doivent jouer justement avec ces éventuelles déformations qui découlent des projets littéraires différents de chaque texte. Voilà, je vous remercie.